Bonjour, vous êtes bien sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Bienvenue dans l'émission de l'association des cinéastes documentaristes ADOC. On a déjà traité le sujet. Aujourd'hui, nous sommes trois membres d'ADOC à animer cette émission. Doriane Conti, bonjour Doriane.
Bonjour.
Anne Galland, bonjour Anne.
Bonjour.
Et moi-même, Caroline Kim Morange. À la technique, Niki Velisaropoulou, Mélanie Trachler et Samia
Jedi.
Jedi, merci. Nous accompagne. Dans cette émission, nous allons donner la parole à deux cinéastes qui ont fait des films sur le travail de photographe. Mariana Otero s'intéresse à Gilles Caron dans son film Histoire d'un regard. Bonjour Mariana.
Bonjour.
Et Jérôme Clément Wiltz, comment on prononce exactement ?
Wiltz.
Wiltz. Suit Corentin Follen dans son documentaire Un baptême du feu. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Ce sont deux films dans lesquels les regards se croisent, se répondent, dialoguent et s'interrogent. Et pourtant, ce sont deux films très différents dans leur forme, grâce à des choix de réalisation que l'on pourrait qualifier de diamétralement opposés. Nous allons vous présenter les deux films, et je passe donc la parole à Anne pour nous parler de celui de Mariana.
Mariana, je vais te présenter en quelques mots, mais sans doute que beaucoup d'auditeurs tristes te connaissent déjà, ou en tout cas ont vu certains de tes films. Depuis tes débuts, après avoir fait l'IDEC, l'ancêtre de la FEMIS, il y a presque 30 ans. Tu as été membre d'ADOC à un moment, mais surtout de l'ACID, une autre association de cinéastes qui soutiennent la diffusion des films en salle. Tu es aussi membre des Ateliers Varan, où tu as enseigné, comme à la FEMIS et dans beaucoup d'autres lieux de formation au cinéma. Moi, je t'ai rencontré au Portugal, en 95, je crois, dans un festival qui passait la loi du collège, un de tes premiers films, tourné pendant un an dans un collège de la banlieue parisienne, puis monté pour Arte sous forme d'un feuilleton documentaire en 6 épisodes. Tu as vécu quelques années au Portugal, où tu as réalisé en 97 « Cette télévision est la vôtre », un film où tu dévoilais le fonctionnement de la plus grosse chaîne commerciale du pays, la SIC, et qui a suscité une énorme polémique. Revenu en France, tu te tournes vers le cinéma, comme tu dis, c'est-à-dire le cinéma en salle. Avec Histoire d'un secret, un film intime et politique où tu pars sur les traces de ta mère, brusquement disparue pendant ton enfance. En 2010, Entre nos mains raconte comment des salariés découvrent une nouvelle liberté en essayant de transformer leur entreprise en coopérative. En 2013, tu réalises « À ciel ouvert » pour comprendre la vision singulière du monde d'enfants psychiquement et socialement en difficulté. Puis en prolongation du film, tu écris avec la psychanalyste Marie Brémond le livre « À ciel ouvert, entretien ». En 2017, l'Assemblée tournée pendant Nuit debout, où tu accompagnes ceux et celles qui, sur la place de la République à Paris, s'essayent à réinventer la démocratie. Enfin, Histoire d'un regard, ton dernier film, dont nous allons parler aujourd'hui, un long métrage documentaire sorti en salle en janvier 2020. Histoire d'un regard, un titre en écho à Histoire d'un secret, ton film de 2003. Le regard dont tu cherches à retracer l'histoire, c'est celui de Gilles Caron, photojournaliste dont les photos ont fait la une des journaux à la fin des années 60 et qui est disparu au Cambodge en 1970. Pour entrer dans l'univers de ton film, nous allons écouter un extrait sonore. C'est le début du film. À l'image, nous voyons tes mains ouvrir le paquet que t'a donné un ami, en sortir un gros livre de photos et d'images, une biographie de Gilles Caron que tu commences à feuilleter. On écoute.
Un jour, un ami m'a envoyé un livre. La biographie d'un photographe. En le feuilletant, je me suis aperçue que certaines de ces photos habitaient ma mémoire. Pourtant, je n'avais jamais retenu le nom de celui qui les avait prises. Ton nom, Gilles Caron. Et puis les dernières pages du livre. Je ne m'y attendais pas. j'ai été saisie. Elles évoquaient ta disparition au Cambodge en 1970 à l'âge de 30 ans. Sur ton dernier rouleau de pellicule, des enfants embonnés dans un jardin en hiver, tes deux filles, Marjolaine et Clémentine. Cette histoire faisait écho à la mienne. Une femme, ma mère, Clotilde Vautier, peintre. Un homme, un père, Gilles Caron, photographe. L'un et l'autre arrachés à la vie, soudainement et précocement, à l'âge de 30 ans. Laissant derrière eux deux petites filles, qui, pour trace de l'absence, n'auront qu'une multitude d'images à tenter de déchiffrer.
Nous sommes sur Radio Libertaire, dans l'émission d'Ad Hoc, on a déjà traité le sujet, et nous venons d'entendre le début du film Histoire d'un regard de Mariana Otero. Mariana, je vais te donner la parole pendant un tout petit temps, parce que l'idée de notre émission, c'est ensuite de présenter très vite le film de Jérôme et ensuite partir dans une discussion. Mais quand même, pour démarrer avec toi, à l'inverse de plusieurs de tes films tournés en cinéma direct, Histoire d'un regard, comme Histoire d'un secret, 17 ans plus tôt, est un film éminemment construit et mis en scène. Tu nous l'annonces dès le début, dans l'extrait que nous venons d'entendre, c'est ta voix off qui nous raconte, à nous, spectatrices et spectateurs, mais c'est avant tout à lui que tu t'adresses. Ton nom, Gilles Caron. Ce choix de tutoyer ton personnage, cette relation intime que tu instaures avec lui et dont tu nous fais témoin, est-ce que ça a été dès le départ de ton projet de film ?
Non, enfin ça a été l'évidence de le tutoyer dans la voix off est venue au fur et à mesure des recherches que j'ai faites sur son travail photographique. Recherches qui ont consisté principalement enfin, dans un énorme travail de remise en ordre des photos, puisque toutes les photos de Gilles Caron étaient dans le désordre, les rouleaux n'avaient pas été classés par l'agence au fur et à mesure des reportages. Et donc, moi, pour comprendre, puisque le projet du film, c'était vraiment de comprendre le cheminement à la fois physique, mais aussi intellectuel de Gilles Caron, bien, il me fallait d'abord remettre dans l'ordre les photos. Et c'est vrai donc, que j'ai passé à peu près 6 mois dans un travail qui était proche du détective privé, de l'anthropologue, de l'historienne, enfin tout ça mélangé, à remettre dans l'ordre les photos. Et donc j'ai eu vraiment l'impression d'être à côté de lui pendant que je faisais ça, quoi, d'être au-dessus de son épaule et de petit à petit reconstituer comme ça ce qu'il avait vécu pendant 4 ans. Et c'est cette proximité-là qui fait que, après toute cette recherche, quand j'ai commencé à réfléchir sur le film, à l'écriture de cette voix, je me suis dit, mais je peux pas lui dire il, quoi. C'est, voilà, le tu me semble évident. Et puis, il y avait aussi l'idée de décaler complètement le film de ce qui serait un biopic. Et donc, le tu engage tout de suite le spectateur dans l'idée qu'on n'est pas dans un biopic traditionnel, mais dans une autre forme de film.
Bon, on aura beaucoup d'autres choses à dire par la suite.
Je vais maintenant présenter Jérôme Clément Wils. Tu es réalisateur, chef opérateur et comédien. Tu as étudié l'anthropologie et les arts plastiques à Paris 8, puis intégré Sciences Po Paris. Et ensuite, tu es allé à l'université de Berkeley pour continuer tes études en sciences politiques. Tu as ensuite découvert et appris le cinéma en étant assistant pour Christophe Huttenberger. Tu as donc travaillé en tant qu'assistant réalisateur sur des longs-métrages documentaires, mais également en tant que chef opérateur. Depuis 2014, tu réalises des reportages. Tu as notamment été journaliste pour l'AFP durant les émeutes en Haïti au début de 2016. Tu réalises aussi des clips de musique pour Dezen ou Ron, par exemple, et des documentaires de création, notamment Printemps et Être Cheval en 2016 ou 2015. Tu savais plus très bien me dire, mais dans ces années-là. Et aussi « Quand tout le monde dort » en 2018. Dans tes films, tu suis des personnages sur le long cours qui ont des destins, je te cite, « hors normes ». Dans le documentaire qui nous intéresse aujourd'hui, « Un baptême du feu » réalisé en 2015, tu suis Corentin Follen, ton meilleur ami qui est photographe freelance et qui part couvrir des conflits dans différents endroits du monde. Ce documentaire est l'occasion pour toi de raconter une nouvelle génération de photographes freelance appelée la génération Printemps Arabe, qui se lance à ses frais pour couvrir les conflits dans l'espoir de vendre les clichés à la presse. Tu filmes Corentin, le personnage principal, mais également Leïla, Rémi, Capucine et James, qui sont ses collègues et amis. Au fur et à mesure que le film se déroule, Corentin change son rapport à son métier et, son goût pour l'aventure se transforme peu à peu en une réflexion plus profonde sur le sens de son métier et de l'existence. Un baptême du feu débute par une image de toi, dans le miroir, caméra à la main. Puis tu descends des escaliers pour nous amener dehors et nous permettre de rencontrer Corentin. Pendant ce temps, tu nous racontes en voix off ton désir de filmer ce personnage. Nous allons écouter tout de suite un extrait de ce début.
Je m'appelle Jérôme. Je vais retrouver Corentin, mon meilleur pote. Il est photographe freelance. Il part couvrir les événements de l'histoire. Il part à ses propres frais. Il part sans rédaction derrière lui. Il part sans même être sûr de vendre ses photos. Mais il part quand même. Il part. Pour moi, c'est un peu comme apprendre à sauter dans le vide, mais sans parachute.
Bonjour. T'as repris ta caméra, ça y est? T'as arrêté la chanson, la chansonnette?
Nous sommes toujours sur Radio Libertaire, dans l'émission d'Adoc, on a déjà traité le sujet. Jérôme Clémenville, on vient d'écouter l'extrait du tout début de ton film, où tu suis donc Corentin Follen, ton meilleur ami, et on se demandait qu'est-ce qui t'a donné envie de le suivre. Et on comprend dans le début du film que ça fait 5-6 ans qu'il est photographe, donc pourquoi avoir choisi de le suivre à ce moment-là?
Il se trouve que à un moment Corentin me dit, on était comme ça en train de discuter à Paris, et je lui dis qu'est-ce que tu fais de ta vie en ce moment, et il dit demain je pars sur mon premier conflit. Et je l'ai rappelé le soir et je lui ai dit je viens avec toi. Et au début je croyais que j'allais filmer avec lui à ses côtés, que j'allais filmer le conflit lui-même. Et en fait, je l'ai entendu parler avec des confrères à l'aéroport, et je me suis dit mais en fait il y a vraiment quelque chose de ces corps et de ces jeunesses qui est en train de s'écrire, que je trouve absolument crucial. Et donc assez instinctivement j'ai commencé à le filmer lui. Je pense que j'avais un désir d'être tout simplement à ses côtés, de vivre cette vie-là, de découvrir cette vie-là. Et après, au fur et à mesure des mois et des années, mon regard a commencé à interroger le sien. Et lui-même, du fait de ses interactions avec moi, et du fait que moi je l'interroge sur sa pratique, il a été amené aussi à réfléchir sur sa manière de photographier.
Donc vous avez vraiment commencé en même temps en fait. Donc la première fois qu'il part, tu pars avec lui et tu l'as suivi à chaque fois qu'il est parti.
Ouais, bien sûr. Alors Corentin lui avait déjà couvert beaucoup des révoltes. Il avait couvert beaucoup le milieu politique français aussi. Il avait couvert le tremblement de terre en Haïti. Donc il avait quand même vraiment un pas d'avance sur moi entre guillemets. Moi je venais d'un cinéma, donc voilà, j'ai été l'assistant de Christophe Hottenberger, donc d'un cinéma documentaire tourné en France, plus social, ce baptême du feu a été encore plus le mien.
D'accord.
Et quand il te dit tu arrêtes la chansonnette,
ah ouais.
On s'est dit est-ce que tu étais parti aussi dans la musique?
Ouais. À cette époque-là, j'étais aussi dans la musique, effectivement. Et donc, il connaissait cet autre côté de moi. Donc, oui, effectivement, je pense que dans ce film, on sent l'intimité qu'il y a entre lui et moi. Mmh. Et je pense que ce film, il parle aussi d'amitié. L'amitié qui existe entre les photographes. Et moi, je suis aussi dans cette... je suis aussi pris, en fait, dans cette communauté. Et je pense que c'est... Il n'est pas possible de survivre en milieu de guerre seul, ou en tout cas c'est extrêmement difficile, d'autant plus dans des conditions économiques aussi difficiles que quand on est freelance débutant. Et donc, évidemment, ce film parle de cette amitié-là.
Mais quand tu descends les premières images du film, tu descends de chez toi, tu filmes déjà.
Oui, bien sûr.
Donc déjà, tu es dans cette démarche justement de lui parler, d'être toi dans le film. Enfin, ou est-ce que c'est juste parce que... enfin, voilà, pourquoi tu as décidé de filmer à ce moment-là ?
Ah ben, c'est assez instinctif pour moi de filmer tout le temps. À partir de moi. Alors, pas exactement, mais effectivement, dès que je sens qu'il y a quelque chose. Moi, j'aime filmer les points de bascule. Donc, forcément, quand je me dis que je vais partir sur mon premier conflit, forcément, je me dis qu'il y a ce point de bascule et qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'existence qui va se nouer, ou se dénouer. Et donc, moi, mon geste instinctif, c'est de sortir la caméra. Moi, j'aime bien me situer justement à cet endroit où quelque chose de l'ordre de l'existence se joue. Et donc, bah, voilà, je la sors, quoi.
Je ne sais pas si on a encore un peu de temps avant de passer, parce qu'on a une pause musicale. Non, pas tout de suite.
Si, on peut la passer maintenant.
Oui, ou... non. Bah, attends, j'ai une question. On va peut-être pas suivre notre conducteur. Mais évidemment, vous avez chacune vu le film de l'autre. C'est une des conditions pour participer à cette émission, puisque on fait dialoguer deux films sur un même sujet, enfin un sujet semblable, mais qui n'ont pas été construits du tout de la même façon. C'est pour montrer la diversité des regards et des points de vue des cinéastes. Et Mariana, la dernière fois que je t'ai croisée, tu m'as dit que le film de Jérôme, en fait, tu l'avais déjà vu, parce que justement, tu l'avais vu quand tu préparais ce film « Histoire d'un regard ».
Voilà, absolument. Comme je suis quelqu'un d'assez lente, il me faut 5 ans pour faire un film. Donc effectivement, avant de commencer à travailler sur « Histoire d'un regard », j'ai vu à peu près tout ce qui pouvait... Enfin, beaucoup de films sur la photographie, quoi, pour voir un petit peu comment ça avait été traité, pour pas aussi répéter quelque chose qui aurait déjà été fait, enfin voilà, être un peu dans une démarche un peu différente. Et donc, effectivement, je me suis rendu compte en revoyant le film avant l'émission que j'avais déjà vu le film de Jérôme, qui d'ailleurs, on se faisait la réflexion avant l'émission, enfin, qui est absolument l'envers du mien, quoi, c'est-à-dire. C'est-à-dire que moi j'ai devant moi un disque dur avec des photos d'un photographe qui est décédé en 1970 que je ne connais absolument pas, dont j'ai vu quelques photos mais que je connais absolument pas. L'accroche se fait sur des petites similitudes entre ma vie la vie de ma mère qui a disparu en 68 d'un avortement clandestin de façon subite et alors qu'elle était en train en pleine émergence de sa peinture et J. Caron disparaît en laissant 2 petites filles aussi en plein dans son travail, enfin voilà, c'est cette petite similitude là et puis il a laissé des photos de ses petites filles avec des bonnets dans un jardin en hiver et ma mère avait fait des dessins de ma sœur et moi dans un jardin en hiver avec des bonnets aussi, enfin voilà, c'est cette espèce de coïncidence m'avait accroché sur le sujet, mais je ne connaissais pas du tout Gilles Caron et je connais rien à la photographie et encore moins au photoreportage, quoi. Donc ce qui m'a amené à travailler sur ce photographe, c'est qu'il n'était plus là, donc que je ne le connaissais pas et que j'avais en face de moi ces photos et que j'essaie, à partir de ces photos, de retrouver quelque chose de son travail, de son regard. Alors ce sont des hypothèses, bien évidemment, alors que Jérôme, lui, c'est l'inverse. Il connaît cette personne, c'est un ami, j'imagine que vous discutez déjà depuis longtemps de ce travail-là. Enfin, il y a quelque chose qui... Et tu l'accompagnes dans son travail. Donc évidemment, c'est deux démarches totalement différentes. Et puis même dans la forme du film, ce qui m'a frappé, je me souviens quand je l'avais vu et ça m'a refrappé là, c'est que ces photos, on ne les voit qu'à la fin.
Effectivement, c'est un choix que j'ai fait qui est de ne pas montrer les photos. Et donc c'est vraiment des regards qui sont complètement en miroir d'une certaine manière. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que effectivement, moi j'ai fait ce choix très tôt pour le coup dans le tournage de ne pas montrer les photos de Corentin ou seulement donc en fin de film. Et en revanche, je retrouve des thématiques ou des questionnements qui sont les mêmes dans le film de Mariana et dans le mien, avec je pense au cœur du questionnement du photographe qui est la question de la décision, du choix, où est-ce que je vais, où est-ce que je me mets, du quel côté du policier, ou là par exemple au Tchad, où finalement en fait il change carrément de côté. Et en fait moi mon idée, c'était de se mettre justement à cet endroit, à ce moment-là du choix. Mais ce qui est intéressant, c'est que toi, dans ton film, Mariana, tu te retrouves à essayer de deviner en creux quelles ont été les décisions que Caron a pu prendre. Donc oui, c'est intéressant de voir qu'effectivement, ces dispositifs sont complètement en miroir.
Et toi, tu dis t'essayais de te mettre du même côté que Corentin, en fait, c'est ça?
Ben, en tout cas, j'essayais d'être là au moment où il doit faire ce choix. Est-ce que je me lève? Est-ce que je reste couché? Est-ce que je cours? Est-ce que je cours vers vers là où ça castagne? Ou est-ce que je recule? Est-ce que je reste sur le conflit? Ou est-ce que je pars? Est-ce que je reprends l'avion pour rentrer chez moi? Est-ce que je continue à faire de la photo de guerre? Ou est-ce que j'arrête? Et moi, je trouve qu'il se dit énormément de la pratique de photographe, et évidemment de qu'est-ce que je suis prêt à donner, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour mon art, ou en tout cas pour mon métier.
Oui, on traverse, Gilles Caron traverse évidemment ce type de questionnement, sauf qu'effectivement, la manière de les montrer, forcément, tu travailles avec quelqu'un qui vit, tu l'accompagnes, et moi, je travaille sur quelqu'un qui n'est plus là, et qui... voilà, mais effectivement, dans les photos, on voit bien j'ai imaginé qu'il se pose et qu'il y a la trace de ces questionnements dans les photos, quand il photographie par exemple Depardon en train de filmer cet enfant qui est en train de mourir, j'imagine que c'est aussi des questions qu'il a dû se poser quand il est face à un conflit où il se dit que là ça va trop loin et qu'il faut qu'il arrête, sauf que lui il n'arrête pas, mais voilà, c'est très intéressant effectivement de voir qu'on peut raconter par rapport plus au thème de l'émission. On n'a pas, c'est quoi, on n'a pas fini de traiter.
On a déjà traité le sujet.
Voilà, nous traitons le même sujet, mais le fait de le traiter de façon aussi différente en donne une perception différente aussi, d'une certaine façon.
Et effectivement, donc du coup, encore antérieurement à moi, au fait de commencer mon film, moi aussi j'ai beaucoup regardé de films sur les photographes de guerre, et pareil, dans l'idée de dire donc à quel endroit je pense qu'il y a quelque chose encore à raconter. Et effectivement, à ce moment-là, quand j'ai commencé à tourner, c'était beaucoup justement des biopics, souvent très agiographiques, on va dire, sur la grande mission des photographes de guerre. Et moi, j'avais envie d'interroger aussi leurs doutes, d'interroger leurs peurs, d'interroger les moments où on se dit, mais en fait, je ne sais absolument pas quelle décision je vais prendre. Et donc, du coup, c'est là où je me suis dit que j'avais envie de le faire. Et le fait de m'interroger à des photographes dont c'était les premiers conflits ou parmi les premiers conflits, c'est là où je me disais qu'il y avait quelque chose qui se jouait que je trouvais intéressant, une fragilité que je trouvais intéressante à interroger.
Mais d'ailleurs, quand on a commencé à préparer l'émission, comme souvent on le fait, en fait, on part souvent d'un film qui nous inspire. Donc on connaissait le film de Mariana et on s'est dit, c'est intéressant, on va essayer de construire une émission autour. Et je dois avouer que ça n'a pas été simple, en fait, parce qu'effectivement, la plupart des films que je voyais, c'était des biopics ou alors des photographes qui témoignaient. Mais c'était pas du tout c'était beaucoup moins, justement, le regard d'un cinéaste sur un photographe. Sans que ce soit juste un biopic assez classique ou un témoignage du photographe sur son travail. Et du coup, on était content de trouver ton film, Jérôme.
Alors, je pense que les différences viennent peut-être aussi du point de départ, parce que au fond, moi, mon point de départ, c'est pas tant le photoreportage au fond que l'absence. Au tout début, on va dire, de ce qui fait qu'à un moment donné, je m'intéresse à Gilles Caron. Toi, tu disais l'amitié. Moi, je dirais c'est l'absence, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est plus là et dont j'ai envie, un peu dans la continuité d'Histoire d'un secret, dans la continuité de ce film-là, de redonner une présence à travers ses œuvres.
Histoire d'un secret, juste, je rappelle, qui racontait une sorte d'enquête sur le décès de ta mère, la disparition de ta mère... il y a 50 ans.
Oui, c'est ça, en 1968. Mmh. Voilà, et qui était artiste peintre, et donc à partir de ses peintures, enfin dans certaines séquences, dont une qui est tout à fait similaire à une séquence qu'il y a dans Histoire d'un regard, j'essaye de lui redonner une présence à travers le geste, et à travers les traces en fait que sont les traces du pinceau sur eux. Et d'une certaine façon, ce film-là, c'est un peu la continuité, c'est-à-dire la redonner une présence, et le tu était aussi pour ça, le tu convoque comme ça la présence de Gilles Caron, c'est redonner la présence d'un artiste à travers son œuvre, c'est-à-dire pas en racontant sa vie, son histoire, son enfance, et enfin voilà, dans cette espèce d'illusion de la possibilité d'épuiser quelqu'un à travers sa vie, mais au contraire d'arriver à juste à travers son œuvre, comme la trace de son de quelque chose, de son esprit, de son sa vision du monde, de son voilà, et essayer de raconter ça. Donc comme le point de départ il est là, et que toi le point de départ c'est cette amitié, je pense que c'est ça qui fait évidemment la différence fondamentale des deux films, même si effectivement en apparence ils traitent le même sujet.
Et dans ton film d'ailleurs tu dis une phrase très belle qui dit « ceux qui sont là ne seront plus », et c'est une phrase qui m'a énormément touché. Et moi, ce que j'ai trouvé troublant dans le fait de filmer des photographes, c'est que le principe même de faire une photo, c'est de créer un instant éternel ou immortel avec de figer le temps. Alors que la vidéo, pour moi, enfin l'image en mouvement, est par essence presque de disparition de ce temps. Et là, moi, je filme des gens qui courent, dont le monde est une espèce de décor qui n'arrête pas de s'effondrer. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, ce que j'ai essayé de faire ressentir aussi dans le montage de mon film, c'est de dire, en fait, la vie n'est qu'une course et le monde derrière nous disparaît. Et vraiment, cette phrase, ceux qui sont là ne seront plus, m'a énormément touché dans ton film.
Eh bien, on est bien parti pour cette discussion passionnante qu'on va interrompre le temps de souffler un tout petit peu avec une pause musicale. Donc, on a choisi un morceau trouvé par hasard, mais qui a résonné vraiment avec le thème de notre émission. C'est une chanson du groupe Alt-J, un groupe britannique de rock indépendant. Une chanson qui s'appelle Tarot, en attendant Robert Capa. Et c'est une chanson qui évoque l'histoire de deux grands photographes de guerre, Gerda Tarot et Robert Capa, tous deux morts dans l'exercice de leur métier, elle durant la guerre d'Espagne, lui 17 ans plus tard, au cours de la guerre d'Indochine en 1954, en marchant sur une mine, alors qu'il s'éloignait des troupes françaises pour prendre une photo générale. Donc le risque que prennent ces photographes de guerre, ou de presse, mais qui se retrouvent souvent en guerre, on écoute.
China Kappa jumps to 2 feet creep of the road. To photo, to record me, lumps and war. Their ancestors his chance, oh. Spread you into my eyes. PM Kappa pens death quivers, last rattle, last chose. Oh, colors and cares, glazed to gray, shriveled and stricken to dots. The left hand grasp with the body grasp.
Nothing we united with is the
Vous êtes bien sur Radio Libertaire, 89.4 FM, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et nous venons d'écouter la chanson Tarot d'Alt J. Vous êtes bien dans l'émission, on a déjà traité le sujet, de l'association Adoc. Et nous sommes en présence de Mariana Otero et de Jérôme Clément-Wiltz. Et donc, vous avez déjà commencé à l'évoquer, la proximité en fait, de vos deux personnages. Parce qu'en fait, dans les deux cas, c'est des photographes, des jeunes photographes. Ils vont sur les terrains de guerre, ils sont à la recherche de scoops. Donc, ça les rapproche beaucoup, disons, dans leur démarche de photographe. Mais ça n'empêche que vos films sont très, très différents. Et donc, du coup, c'est évidemment dû à vos choix de réalisation, avec vos regards, en fait. L'un, en l'occurrence, très posé et réflexif dans le cas de Mariana, et l'autre plutôt dans l'action, dans la même démarche que le photographe que tu suis, en cinéma direct, dans le cas de Jérôme. Et en l'occurrence, donc Mariana, tu as préparé ton film pendant des années. Tu as lu, tu as fait des recherches. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce processus de recherche qui t'a mené jusqu'au film ?
Oui, donc le gros du travail, donc ça a été vraiment de plonger dans tous ces rouleaux de photos qui étaient, comme je disais tout à l'heure, dans le désordre. Et pour les remettre dans l'ordre, il a fallu vraiment que je repasse par tous ces grands sujets qui faisaient l'actualité à l'époque, dont on se souvient un peu, enfin voilà, très très grossièrement comme ça des événements. Mais là, pour comprendre l'ordre des rouleaux et comprendre qui était là et pourquoi ce rouleau ça allait plutôt avec celui-là, et il fallait que je sache qui était qui, à quel moment ça correspondait, donc il fallait vraiment replonger dans la précision, dans le détail des événements, avec des choses qu'on a par exemple complètement oubliées, comme quand la colline de Dacto par exemple au Vietnam, ça a fait l'ouverture des journaux et la télé, etc. pendant des mois, et c'est vrai qu'aujourd'hui en tant que tel, si on dit la colline de Dacto, personne s'en souvient. Donc voilà, c'est à peu près toujours comme ça, c'est-à-dire plonger dans un amas de détails historiques, géographiques. Je me suis replongée dans les cartes de tous ces pays pour essayer de comprendre les trajets qu'ils faisaient. C'était assez... c'était énorme, quoi. Et alors, la manière dont je pouvais refaire cette mise en ordre, qui était absolument passionnante, qui d'ailleurs a été le déclencheur du désir du film, vraiment, en fait, parce que tout à l'heure, je parlais effectivement du petit détail au début qui est très important sur la similitude de nos histoires familiales, on va dire, mais entre la famille Caron et la famille Otero, si on peut dire comme ça. Mais ce qui vraiment m'a décidé à faire le film, c'est quand j'ai remis en ordre les deux photos, les deux rouleaux avec Cohn-Bendit, où là je me suis dit, mais je peux comprendre totalement le regard et le travail de ce photographe juste en regardant ses photos.
Oui, c'est une séquence en fait où tu analyses une photo, enfin comment est arrivé Gilles Caron jusqu'à une photo qui est célèbre en fait.
Voilà, celle de Cohn-Bendit face aux policiers, celle qui représente mai 68 pour dans le monde entier d'une certaine manière. Donc c'est vraiment et c'est en faisant ce travail, parce que les deux rouleaux étaient inversés, donc je les remets dans un autre ordre, et là je me dis, ah oui, il a fait comme ça, il est monté là, il a cherché à faire ça, et puis il s'est tourné comme ça. Enfin bon, et ça, c'était absolument magique. Et je me suis dit, ça, c'est vraiment l'objet d'un film. Ça, donc, voilà, c'est cette mise en ordre, elle était un plaisir fou, quoi. Enfin, c'était... Sauf que c'était titanesque, quoi. Je savais pas que ce serait aussi compliqué. Je sais pas si j'avais su, si... Parce que c'était... Donc, je me servais beaucoup aussi des différences de focale, puisque... Il faisait beaucoup moins de photos en longue focale qu'en courte focale, c'est-à-dire qu'en fait, il se mettait très près des gens qui photographiaient. Et du coup, la courte focale, c'était un peu comme un marqueur de temps. Ça me permettait de me dire, dans telle journée, il a photographié ça, et puis après, il est allé là. Donc après, je reprenais les rouleaux en courte focale et je trouvais où ça se croisait. Enfin voilà, c'était... Donc j'accrochais les photos au mur. C'était un travail complètement... Je rentrais chez moi le soir et j'étais dans une espèce d'euphorie totale en me disant, ouais, j'ai trouvé. Évidemment, il n'y avait que moi qui s'intéressait. Je pouvais partager ça avec personne parce que c'était tellement précis comme recherche que voilà. Donc ça, ça a été la très longue recherche avant de me mettre vraiment à la réflexion sur l'écriture du film.
D'accord. Et ben justement, en fait, c'est aussi ça qui t'a permis, enfin, dans ton film, toute cette recherche, tu l'as pas faite toute seule. Et dans le film, en fait, t'es aussi accompagnée parfois par des spécialistes. Et là, on va écouter un extrait d'un moment où, à Jérusalem, donc quand tu dis que t'étais avec tes cartes, là, on voit vraiment dans le film, il y a une carte, une grande carte de la Palestine, d'Israël, et tu colles des photos tout, sur tout le long de tes murs.
C'est une reconstitution, ça. Ce n'est pas quelque chose dont je tiens juste à...
Oui, oui,
c'est-à-dire... C'est pas quelque chose... c'est-à-dire que, dans ma recherche, je n'avais pas cet historien. C'est une scène parfaitement...
D'accord.
On pourrait dire, pour le coup, on pourrait presque dire que c'est une scène de cinéma direct, d'une
D'accord.
certaine manière. Sauf que je convoque l'historien. Mais l'historien, quand il voit ces photos, il ne les a jamais vues.
Oui.
Enfin, et donc, c'est l'atelier, enfin, tout ce qui est la partie atelier dans le film, c'est une reconstitution de choses, de petits moments que j'ai traversés, mais il y en a où c'est absolument c'est quelque chose qui n'est pas, enfin qui est un vrai moment de vie dans le film, c'est-à-dire que ça, j'avais pas rencontré cet historien mm-hmm. avant de le filmer, quoi.
Et il s'appelle comment d'ailleurs, parce que
Vincent
Lemire.
Lemire.
Et donc, il est passionnant. Donc, la discussion dure assez longtemps. Là, on va écouter un extrait assez court. En fait, pour le situer, donc, Gilles Caron est rentré à Jérusalem avec les troupes israéliennes. Il a fait les premières photos sans vraiment se rendre compte des Israéliens, des soldats priant sur le mur des Lamentations. Donc, premier scoop. Ensuite, arrive Moshe Dayan, il photographie. Deuxième scoop. Et après ça, on écoute ce qui se passe.
C'est une famille de réfugiés palestiniens qui habitent dans une ancienne maison juive. C'est sûr et certain.
Les gens peut-être essayent de sortir des papiers ou quoi.
C'est une scène terrible. Hein. Je veux dire, globalement, ce que viennent leur annoncer les soldats, c'est vous avez maximum quelques jours pour repartir. Ouais, on voit quand même, je veux dire, les hommes ont quand même les bras en l'air. Hein.
Ouais, toute cette série.
Donc,
il fait toute une série comme ça de photos.
Il y a pas mal de familles qui sont parties, soit chez des cousins à Silouane, voilà. Mais les hommes, par contre, ils les ont amenés sur le Mont des Oliviers.
Donc une fois, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a compris qu'il avait fait, qu'il a fait ses deux scoops, et après. Il essaie d'aller chercher autre chose.
Ouais, il essaie d'aller chercher autre chose. Et ça, c'est quand même assez émouvant, quoi. Et il essaye vraiment, puisque là, on voit, il fait des tours. Il rentre par là, il ressort, il re-rentre par là, il ressort, il revient au même endroit où il était. Enfin bon, ça lui prend un temps fou, quoi. Pour effectivement faire des photos qui vont pas avoir le même impact que celles qu'il a faites avant. Il y va, quoi, quand même.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire et donc Mariana, dans cet extrait, on entend bien ta recherche en fait. Déjà, on entend ton excitation. C'est vrai qu'on voit vraiment que tu es passionnée en fait par cette recherche. Ce que t'apporte en plus l'historien, donc que tu savais pas forcément, ça éclaire encore plus tes recherches. Donc, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Et puis, moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que tu vas au-delà justement des scoops. C'est le fait d'aller vraiment éplucher ces rouleaux. C'est quelque chose qui voilà, ça donne une autre dimension en fait à ce regard que tu cherches.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la recherche que j'ai faite avant d'écrire le film pouvait encore aller plus loin. Et après, quand j'ai décidé, enfin quand j'ai commencé à écrire le film, à réfléchir à comment j'allais raconter ces différents reportages qu'avait fait Gilles Caron, enfin les quelques-uns qui me semblaient les plus importants, la grande question que j'avais, c'est comment j'allais à chaque fois changer de dispositif. Parce que l'idée, c'était que je n'allais pas répéter le dispositif qu'on voit avec les photos de Cohn-Bendit, quand je remets en ordre les deux rouleaux, et qu'il fallait vraiment que, pour chaque nouveau reportage, qui nous entraîne à chaque fois dans une page de l'histoire du XXe siècle qui est assez énorme, qui est fondamentale, je dirais, parce qu'on en subit encore les conséquences aujourd'hui, avec des photos toujours à la fois, enfin, très fortes, il fallait que je trouve à chaque fois un dispositif différent qui donne envie aux spectateurs de replonger une nouvelle fois dans une histoire très forte et qui les Oui, ce désir renouvelé, c'est compliqué dans un film. Donc, il fallait que je change de dispositif. Donc, à chaque fois, j'ai essayé de trouver un dispositif adéquat, le plus adéquat possible, le plus juste possible par rapport au reportage. Et donc, pour Jérusalem, je me suis dit que ce qui était très important, vu que c'est une ville qui a énormément changé, une réalité très, très, très compliquée à saisir, je me suis dit que ce serait important que je fasse ça avec un historien. C'est-à-dire, j'avais besoin qu'un historien vienne préciser des choses que je n'avais pas comprises et qui vienne avec sa connaissance à la fois de l'histoire et de la ville. Et donc, Vincent Lemire est quelqu'un qui est un spécialiste de Jérusalem, un historien vraiment spécialiste de Jérusalem et spécialiste, ça je ne le savais pas, j'ai découvert après, du quartier maghrébin, qui est ce quartier donc, qui se trouvait devant le mur des Lamentations et qui a été détruit donc la sixième nuit de la guerre des Six Jours. Quoi. Alors cet historien, je voulais qu'il soit, qu'il découvre les photos. Donc j'ai rencontré cet historien 3 mois avant le tournage. Je lui ai juste montré une photo qu'avait faite Gilles Caron. Et je lui ai dit voilà qu'est-ce que vous voyez là, qu'est-ce que vous pouvez me dire de cette photo. Et puis là il m'a dit ben voilà je pourrais vous dire que c'est telle rue parce que les pierres sont comme ça, c'est fait à telle heure parce que les ombres sont comme ça. Je me suis dit, waouh, c'est lui, quoi. C'est le bon, c'est la bonne personne. Donc, je lui ai dit, rendez-vous dans 3 mois, à tel endroit, pour un tournage. Et je lui ai pas dit plus que ça. Et donc, quand il arrive, et qu'il voit toutes ces photos accrochées, avec la carte de Jérusalem, etc., mais enfin, surtout quand il voit les photos, il est complètement saisi, quoi. Parce que lui, il est absolument passionné. Il est en train de travailler, en plus, sur un livre sur l'histoire du quartier maghrébin. Et donc, là, tout à coup, il voit des pieds devant lui. Une page, enfin un jour de l'histoire, enfin quelques jours de l'histoire qui sont pour lui super importants. Et en plus de ça, à ce moment-là, ça je ne savais pas non plus, il est en train d'écrire sa thèse et il lui manque un chapitre qui est justement le chapitre où l'armée israélienne rentre à Jérusalem. Donc c'est pour lui, il y a une espèce de coïncidence comme ça qui fait qu'il est enthousiaste comme un petit garçon. Hein. Ouais. Il est là, il court d'un endroit à l'autre et moi aussi je suis hyper contente parce que je vois quelqu'un qui vient me combler plein de questions que je m'étais posées et là il trouve tout quoi. Enfin il voit même, ça c'est quand même absolument extraordinaire, il voit que quand Gilles Caron photographie à l'opposé du mur des Lamentations, il se dit mais en fait il n'a pas compris quoi, il comprend pas qu'est-ce qu'il photographie là, il se dit mais il comprend que Caron n'a pas compris que c'était le mur des Lamentations, ouais. Parce qu'on pouvait pas savoir, c'était le mur d'une maison à ce moment-là, enfin ça ressemblait au mur d'une maison face à une maison, enfin et donc il le voit juste à travers les photos, ce que je trouvais par rapport à toute ma recherche depuis le début, ce que je trouvais génial, c'est-à-dire on peut voir dans les photos autre chose que ce qu'elles montrent quoi. On peut voir de l'invisible, on peut voir ce qu'il y a dans la tête du photographe, on peut voir ce qu'il comprend, ce qu'il ne comprend pas, juste en regardant ses photos. Donc voilà, c'était... Et puis, il voit plein de choses que, par exemple, quand il me dit que les soldats portent l'uniforme des Français, enfin, pendant la guerre d'Algérie, que les soldats israéliens portent cet uniforme-là, alors qu'on sait à quel point... pour Caron, la guerre d'Algérie a été traumatisante. C'est absolument incroyable. Donc, c'est un moment extrêmement fort qui a duré dans le tournage à peu près 6 heures. Très, très intense. Et puis, dans le montage, ça dure que 10 minutes. Quoi. Ouais. C'est pas beaucoup.
Mais c'est une belle séquence.
Ouais. Ouais, pour moi, c'est une séquence très... Dans les séquences que j'ai filmées, à chaque fois, dans chacun de mes films, il y a une séquence très forte. Celle-là, je dois dire, c'est avec celle avec les deux sœurs en Irlande, c'est les plus fortes pour moi.
Mm-hmm. Et alors, dans ton film, tu as choisi de pas respecter l'ordre chronologique des photos. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots?
L'ordre des reportages, ouais. Bon, je le respecte quand même relativement, sauf mes 68.
D'accord.
Parce que je commence avec mes 68, du coup... mes 68 ouvre le film d'une certaine façon, mais après je reste quand même relativement chronologique et à la fin là encore je casse la chronologie pour revenir sur le reportage qui me semble plus ouvrir sur ce qu'aurait pu être le futur du travail de Gilles Caron qui quelque part est pas sans lien avec ce qu'a fait
Mais justement, ça m'intéresse ce que tu racontais sur le mur des lamentations et donc que Gilles Caron ne se rend pas compte au début, en tout cas, de ce qu'il est en train de photographier, de qu'est-ce qui est en train de se jouer. Et moi, par exemple, une question s'est posée au montage, de savoir si j'allais sous-titrer les personnes qui sont autour, les combattantes qui sont autour de Corentin Follen et de ses amis. Et en fait, assez vite, j'ai pris la décision de ne pas les sous-titrer parce que j'avais envie de comprendre aussi, enfin, de rentrer dans justement le fait d'être complètement déboussolé, d'être désorienté dans un pays dont on ne parle pas la langue. Et effectivement, on ressent aussi dans ton film, au moment dans l'épisode qui se déroule au Tchad, que tout simplement, il y a un moment où on est absolument perdu. Et toi, tu sembles deviner que Gilles Caron l'est aussi. Effectivement, moi, j'avais envie de faire ressentir ça. Surtout quand on parle de... Donc il se trouve que la particularité des journalistes, ce qu'on appelle la génération printemps arabe ou la génération freelance, c'était que c'était à une époque où qui vivait et qui vit encore d'ailleurs maintenant une vraie crise de la presse, et donc avec beaucoup moins d'argent. En plus, il se trouve que ce sont des débutantes et débutants et qui ont donc pas de quoi se payer des fixeurs ou des traducteurs ou traductrices. Et donc la question c'est quelle information elles peuvent attraper, qu'est-ce qu'on peut prendre comme photo dans ce contexte aussi déstabilisant qui est celui de ne rien comprendre de ce qui est en train de se dire. Et d'ailleurs à un moment un combattant dit donc à Corentin et ses amis en ce moment c'est en train de se tendre, donc là c'est en Libye, les combattants sont en train de se tourner. Alors qu'on sentait vraiment une vraie amitié de la part des combattants, donc des opposants au régime kadhafiste, on sentait une vraie amitié, tout à coup, on sent une tension, mais on ne sait pas trop comment l'interpréter, et donc quelqu'un nous fait un peu le guide en disant, écoutez, là, c'est très compliqué, il y a des journalistes qui ont été attaqués, parce que les combattants pensent que les journalistes donnent des informations donc au régime kadhafiste, mais tout ça est comme un espèce de théâtre d'ombre, c'est-à-dire qu'on entend, on sent des tensions, on sent des regards, mais rien n'est précis en fait. Et je trouve que voilà, moi j'ai décidé de pas sous-titrer pour justement rendre cela. Mm-hmm. En fait, ce moment où en fait on est dans un espèce de chaos.
Et d'ailleurs, moi j'avais pas compris pourquoi les journalistes étaient visés en fait. Je l'ai pas compris en regardant le film, mais c'est pas forcément grave. Je me suis retrouvée dans la peau effectivement de. Tout d'un coup, il y a un danger, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas comment y répondre, il y a un peu ça, quoi.
Je pense que quelque chose qu'on sent relativement peu dans la photographie de guerre, c'est son aspect le plus chaotique et le plus absurde. Et effectivement, tout simplement, dans un milieu aussi instable, complètement instable, effectivement, il y a des mouvements de foule. D'ailleurs, les deux femmes journalistes que j'ai filmées en Égypte parlent de ça. De tout à coup, il y a eu un mouvement de foule, notamment contre des femmes, mais pas que. Et en fait, tout simplement, il y a quelque chose de l'ordre de l'absurde. C'est-à-dire que tout à coup, au moment où les rebelles libyens sont en train de subir un revers. C'est-à-dire qu'ils étaient en train d'avancer vers la capitale, et là ils sont en train de subir un revers militaire, et donc tout à coup ils se disent, mais peut-être qu'il y a des espions parmi les journalistes, c'est quelque chose qui revient par vagues sur tous les conflits. Mais c'est pour ça qu'à un moment j'ai monté cette image de ce gars habillé un peu étrange, qui parle de Queen Elizabeth, fucking bitch Kadhafi, et qui est un personnage absolument étrange, mais qui est en fait aussi le quotidien de ce qu'on peut rencontrer sur des zones de guerre. Mm-hmm. Et c'est ça que j'ai essayé aussi de faire ressentir à travers le film. C'est que la guerre, c'est pas seulement des combattants héroïques qui vont vers un but précis. En fait, c'est aussi des gens complètement perdus, qui ne savent pas où ils vont et qui avancent, qui reculent. Il y a des fous, il y a des gens qui trouvent la folie pendant la guerre. Et c'est, voilà, c'est un peu ce que j'ai essayé de capter aussi à travers ce film.
Et du coup, on a contrairement donc au film de Mariana, où il y a beaucoup de construction avant, là, on a eu l'impression qu'il avait été pas mal construit au moment du montage. Est-ce que c'est quelque chose une réalité ?
Alors, je pense qu'il faut faire... Il s'agit d'un film, alors moi j'appelle ça du cinéma direct participatif, ou j'appelle ça du cinéma charnel aussi, dans le sens où on me sent vraiment vivre derrière ma caméra. Je parle avec lui, avec mes personnages derrière la caméra, je me filme aussi un peu dans le miroir. Donc c'est pas exactement du dispositif de cinéma direct stricto sensu. On a tendance à penser parfois que c'est quelque chose qui est moins construit. Mais il se trouve que moi, donc j'ai tourné sur 4 ans ce film, et donc forcément, moi je construis mon regard au fur et à mesure de ces 4 ans et qu'est-ce que j'ai envie d'interroger de mes personnages à travers ces 4 ans. Et donc, typiquement, au début, j'avais envie, je pense que j'avais commencé ce film un peu de manière hyper admirative, de dire ce sont des héros. Et après, au contraire, mon regard s'est affiné, s'est précisé, et j'ai eu envie d'interroger beaucoup plus la question de la jeunesse. Qu'est-ce que c'est que d'arriver de manière parfois, pas forcément naïve, mais avec une forme de fraîcheur sur un nouveau métier, sur un nouveau terrain. La question de l'altérité, comment ces jeunes journalistes peuvent aborder l'altérité des terrains qui elles découvrent. La question de devenir quelqu'un, de construire sa trajectoire de vie. Et on le voit, tous les personnages du film construisent des trajectoires de vie, des trajectoires professionnelles extrêmement différentes à travers le film et après, et la question donc du corps qui travaille. Et donc tout ça, ce sont des lignes de force que j'ai tirées au fur et à mesure du tournage. C'est-à-dire que le premier tournage forcément est fait de manière beaucoup plus instinctive, mm-hmm. et puis au fur et à mesure, d'ailleurs on voit que ma manière de cadrer est extrêmement différente en Haïti à la fin du film.
Ah bah oui, ça oui.
Et effectivement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans chacun de mes films, je tourne souvent sur des temps longs. En fait, la question de mon film, donc là, qui est par exemple de comment placer le choix de son existence, comment placer la décision qui va engager son existence, devient aussi en miroir une question que je pose à Corentin, au personnage principal. Et donc, d'une certaine manière, la caméra devient un peu... Comme, je dirais, le psychanalyste, c'est beaucoup dire, mais n'empêche que je deviens une altérité qui interroge Corentin sur son parcours, et donc forcément, je l'accompagne aussi dans son parcours de vie.
Et toi, comment tu pensais, comment tu pensais terminer? Il y a un moment où, est-ce que tu avais quand tu as eu cette idée de voilà, mon film, il pourrait se terminer ainsi?
Il y a eu un moment, il y a eu une évidence, c'est-à-dire que Corentin a dit, mais en fait, donc ce moment en Libye où il dit, en fait, je repars, et après il a dit j'arrête, et après il s'est passé quand même pas mal de temps entre cet événement en Libye, enfin cette guerre en Libye, et ensuite son travail en Haïti, et tout simplement je lui ai dit, mais... Je l'ai interrogé, je lui ai dit, mais j'ai l'impression que tu es en train de changer de vie, tu es vraiment en train de changer de métier. Mmh. Et bah, les fins de film, c'est toujours étrange, mais ça arrive toujours comme une évidence, je trouve. Un film, c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup de travail, mais il y a quand même des évidences. La première des évidences étant quel personnage, quelle personne j'ai envie de filmer. Et là, c'est très généralement de l'ordre du coup de foudre. Enfin, il y a une évidence de dire, ah ouais. J'ai tellement de choses à raconter et à vivre avec la personne qui est devant ma caméra, et souvent la fin d'un film. Mais il se trouve qu'après, je suis reparti, moi, en Syrie, avec notamment Leïla, donc qui fait partie du film. Mais en fait, il s'est passé plein de trucs que j'ai filmé, etc. Mais j'étais, en fait, tout de suite, je me suis dit, mais en fait, ça n'a pas sa place dans le montage. Mm-hmm. Parce qu'en fait, ce qui m'interroge, sinon, ce serait un film qui serait seulement sur la prise de risque. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la trajectoire d'un jeune homme qui est en train de devenir un adulte, mm-hmm. qui est en train de se construire.
Mm-hmm. Oui, ça veut dire que concrètement, tu montes au fur et à mesure sur les 4 ans. Alors, tu vas sur ta table de montage de temps en temps ou...
Alors moi, j'aime beaucoup ce cycle qui est de tourner, dérocher, écrire, tourner, dérocher, écrire, tourner, mm-hmm. dérocher, écrire. Et j'aime énormément cette espèce de flux et de reflux qui me permettent à la fois, moi, de construire mon regard et à la fois de continuer de capter le réel avec ce qu'il a de complètement surprenant.
Oui, non, je me demandais combien d'heures de rush tu avais...
Alors, sur ce film, je pense 150. Ouais. C'est rare que j'en ai moins de 100. Là, celui que je suis en train de... Enfin, voilà, c'est plutôt 200. Voilà.
Et alors, parce que tout à l'heure, on a passé très vite dessus, les photos que Corentin a faites auraient pu faire partie de ces rushs. Enfin, je veux dire, c'est... Alors, comment t'as décidé, pourquoi t'as décidé, on voit bien que c'est une décision assez radicale, comment t'as décidé ça? C'est vraiment très...
Bah, encore une fois, c'était vraiment, j'avais envie que ce film soit un film existentiel. Et donc je me suis dit, en fait, encore une fois, c'était, j'avais regardé aussi beaucoup de films sur la photographie en général et la photographie de guerre en particulier. Et là, je me suis dit, mais non, mais en fait, où est-ce que j'ai envie de me placer moi? Et je me suis dit, mais si je mets de la photo, ça veut dire qu'en gros, le but du film, ce sera alors, est-ce qu'il a pris des bonnes photos? Alors, qu'est-ce qui va rester? Alors que moi, j'avais vraiment envie de filmer un gamin qui est en train de devenir un adulte. C'est vraiment un film sur l'adolescence, même s'il n'est pas adolescent et c'est pas un gamin, mais il y a quand même cette fraîcheur de ce désir. Et d'ailleurs, on voit au début, ils sont beaucoup en groupe, et puis au fur et à mesure, on voit les trajectoires, et notamment celle de Corentin qui s'individualise. Et en fait, je trouve que ce film montre qu'il y a un processus d'individuation. Et je me suis dit, bah ouais, mais en fait, si je monte des photos, ça va tout décaler, en fait. Ça va devenir, alors, c'est quoi le résultat de ça? Et mais moi, c'est pas ça qui m'intéressait.
Et alors, la question serait, pourquoi tu les as mis à la fin?
Je les ai mises un peu, alors, bah, moi, je suis quelqu'un d'assez nostalgique, quand même, et d'assez mélancolique. Et il se trouve que je les ai montées chronologiquement à l'envers, c'est-à-dire qu'on voit en premier les photos qui ont été prises à la fin du film, et après on remonte le temps du film. Et je les ai vues un peu comme... je les ai montées comme ça, un peu comme... ah ouais, et il ne reste que ça. Et il reste ça. C'est en même temps énorme, et en même temps c'est complètement absurde de voir les risques qui ont été pris, tous les mouvements de vie qui ont été traversés, et il reste quelques photos en 2D.
Alors on va écouter un extrait qui marque un peu justement cette transition de vie de Corentin. Alors, il est à Perpignan et il discute avec Alain Frilé. Donc, c'est à Visa pour l'image, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, cette discussion, voilà, marque vraiment un moment où on sent que voilà, il s'interroge sur qu'est-ce qu'il va faire après.
C'est une question importante. Mais voilà. Et est-ce que ce point de départ-là, si tu l'as intégré maintenant, est-ce qu'il t'aide dans la réflexion qui est la tienne sur ce que tu vas devenir et ce que tu vas faire dans ton travail, c'est-à-dire tes travaux plus posés, plus construits?
Effectivement, c'est là où depuis un an, je me suis un peu paumé. C'est que du coup, j'essaie de sortir de ce mécanisme un peu facile, puisque ça fonctionnait, et parce que j'étais porté par ça, et j'y allais sans trop me poser des questions. Et du coup, maintenant, se pose la question de qu'est-ce que je veux vraiment, et dans quelle direction je vais, et pourquoi.
Si tu n'as pas conscience que tu as quelque chose à dire à travers les images qui sont les tiennes, il faut fermer sa gueule. Pour poser les boîtiers, il faut arrêter.
Parce que finalement, quand on se trouve toi, photographe, parmi 30 autres, sur un événement de news, tu te rends compte aussi d'une certaine... Enfin, si t'étais pas là, il y a 29 autres photographes qui sont là. Et l'information, il est quand
elle
même...
Elle serait diffusée quand il arrive.
Elle est quand même diffusée. Elle est... Mais chacun veut mettre sa propre vision.
Je suis pas d'accord. Vous minimisez terriblement la capacité qui est la vôtre à dire ce que vous avez à dire individuellement.
Je suis allé beaucoup en Haïti en 2010. Et donc je voulais faire un peu un état des lieux, partir 3 semaines, 1 mois, un état des lieux, voyager un peu dans tout le pays et prendre du temps, voilà, partir longtemps et sans forcément avoir soit une actu, soit une idée de je vais raconter une histoire et ça va être fait en 3 jours pour un magazine et voilà.
L'engagement de la communauté internationale, la déstructuration de l'organisation précaire des camps, l'intervention aujourd'hui des gangs dans les camps, le démembrement des camps par la violence, la corruption, la valeur, le regain de croyance dans un pays qui en est imprégné.
Ouais, qui s'accroche à ça.
Je travaille sur un truc que je trouve intéressant.
Ça fait quelques semaines que ça mouline là. Ça mouline, mais c'est pas évident parce que...
Qu'est-ce que tu lis sur Haïti? Ou est-ce que tu regardes seulement?
Non, j'ai lu des livres, surtout en 2010. Tous les autres pays, j'arrive, je cours, je repars. Ah si, j'ai un petit livre sur un peu l'historique, vite fait, puis j'aime bien un peu savoir où j'arrive. Mais c'est vrai que...
T'as lu des poètes haïtiens?
Non.
T'as lu des poètes haïtiens? Prends des livres poésie haïtienne.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, dans l'émission d'Adoc, on a déjà traité le sujet. Et donc, nos deux invités, Mariana Otero et Jérôme Clément-Wiltz, j'ai une petite question pour vous deux, ce qui porte sur le choix de la musique. Alors, comme on disait, les films sont très différents et leur ambiance est très différente, et notamment leur musique, qui apporte une partie de cette ambiance, est très différente. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous avez choisi ?
Alors, très vite, je me suis dit qu'il y aurait de la musique dans ce film, enfin, ou musique au sens large, c'est-à-dire un travail sonore forcément très important, puisque les photos n'ont pas de son, hein, et que j'avais pas envie de faire une espèce d'illustration, enfin, de faire jouer une bande sonore qui serait illustrative, enfin qui donnerait une espèce de réalisme comme ça à la photo, où ce qu'on verrait, on entendrait le son de ce qu'on voit, quoi. Donc, mm-hmm. Et en même temps, il fallait du son, enfin il fallait travailler. C'est le son aussi qui pouvait donner la durée des photos, parce que le gros risque aussi dans le montage de ces photos, puisque quand même une bonne partie du film c'est que des photos, c'était d'être dans, là encore, quelque chose de répétitif avec un rythme un peu toujours équivalent. Dans un plan en mouvement, on sait quand ça commence, on sait quand ça finit, enfin on le sent très vite, enfin quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit, on pouvait mettre une minute, 30 secondes, enfin voilà, c'est très, et évidemment le travail du son allait nous aider à déterminer des durées, allait nous aider à les imposer, faire que même si ça dure 30 secondes, on allait avoir la sensation que c'était beaucoup plus long parce que ce serait en silence, et d'autres fois, même si ça durait 30 secondes, on aurait l'impression que c'est beaucoup plus court parce qu'il y aurait beaucoup de son, enfin vous voyez, c'est, mm-hmm. voilà, donc le son était absolument fondamental. Donc dès le début, on a travaillé avec un musicien, dès le début du montage, avec la monteuse Agnès Brucker. On a demandé à Dominique Massa, qui est un musicien qui travaille beaucoup pour la radio, pour des films d'animation et pour des documentaires. Et donc on lui a demandé des sons. Il nous a fourni plein de sons différents, toute une gamme très différente, de façon à qu'on puisse travailler dès le début avec des sons abstraits, enfin qu'ils ne soient pas que des sons justement. Concret, de la réalité concrète. Et à partir de là, très vite, on lui a montré un premier montage. Il a travaillé à partir de ses sons et il a commencé à travailler les musiques à partir de ses choix de sons. Donc ça a été vraiment un travail de...
Des sons qui n'étaient pas instrumentaux. C'était pas des...
Voilà, alors il y avait des sons instrumentaux, mais qu'il abstraitise, si on veut, mmh. voilà, qu'il trafique, en fait. Il y avait aussi des bruits de choses, mais qu'il tord un peu, des nappes, enfin des choses très, très différentes dont il s'est servi pour des tas d'autres films, enfin, mais qui sont vraiment à l'état brut, et avec lesquels, nous, on écoutait ça, on se disait, tiens, ouais, ça, ce serait intéressant, enfin, Enfin, voilà, moi j'écoutais beaucoup tout ça, puis je sélectionnais des choses qui me semblaient pouvoir être utiles. Et à partir de ça, il a travaillé des musiques, en changeant des instruments parfois à notre demande. Enfin, c'était très une collaboration vraiment qui a duré tout le temps du montage, quoi. C'est-à-dire, c'est pas on finit le film et non, ça a été vraiment dès le début, parce mm-hmm. que le travail du son était absolument fondamental pour monter ce film, quoi.
Pour le rythme du montage.
Bah oui, complètement, mm-hmm. pour le rythme des photos, pour leur durée, pour mm-hmm. ce qu'elles transmettaient, pour l'ambiance que ça transmettait. Enfin, c'est donc le travail du son, du silence, creuser les. Essayer d'organiser différents types de silence, enfin, ça a été vraiment très très important, quoi.
Et d'ailleurs, au moment du Biafra, dont on reparlera tout à l'heure, effectivement, le son à ce moment-là, c'est magnifique, ça accompagne extrêmement bien.
Et y a différents silences, justement. Mm-hmm. On se rend compte que le silence, on peut être de plus en plus silencieux, enfin, le silence n'a pas toujours le même son. Mm-hmm. Mm-hmm.
Moi, quand je commence à tourner un film, je me mets toujours en état de disponibilité. De réceptivité à des nouveaux sons, à des nouvelles musiques. Et donc, je sors beaucoup, je vais en concert, j'écoute beaucoup de nouvelles choses, je me fais conseiller beaucoup de nouvelles choses. Et en attendant, justement, encore une fois, une évidence qui, en fait, c'est pas une évidence uniquement instinctive. En fait, elle vient aussi de désirs construits, de pourquoi j'ai besoin de musique, où est-ce qu'elle va se placer. Moi, j'ai tendance à monter relativement peu de musique, mais quand elles sont là, quand elle est là, elle prend toute la place, comme si elle devenait elle-même un moteur de la dramaturgie du film, en fait. Comme si elle devenait aussi un vecteur de mes émotions ou de ma pensée. Et donc là, comme sur d'autres films, au moment où j'ai commencé Un baptême du feu, j'ai commencé à me mettre dans cet état de disponibilité, à chercher, à fureter. Et j'ai rencontré Le Réveil des Tropiques, qui est le groupe qui a composé cette musique. Et un peu comme toi d'ailleurs, Mariana, il y a eu un dialogue très en amont du montage, avec beaucoup d'allers-retours. Ils m'ont fourni beaucoup de matière dans laquelle j'ai retravaillé. Ils ont été assez gentils pour me laisser même travailler le multipiste, c'est-à-dire que j'ai pu enlever des instruments, en rajouter. On a retravaillé aussi, mélanger plusieurs musiques, etc. Mais c'était plutôt presque du travail d'editing, on va dire. Mm-hmm. Mais il y a eu beaucoup d'allers-retours assez tôt. Et c'est vrai que moi, j'aime pas forcément ce truc de demander à un compositeur ou une compositrice, donne-moi la musique de mon film. Il y a quelque chose d'un peu qui me fait peur, en fait, de comme une espèce, il y avait un monstre qui rentrait dans la salle de montage. Et donc là, j'ai bien aimé, en fait, de dire ok, là ce sont des ingrédients avec lesquels je vais travailler en amont, et ce dialogue va continuer.
D'accord. On va profiter de cette discussion pour faire une pause musicale, puisqu'on parle de musique. Donc, on va écouter Olivia Ruiz qui nous chante « Je photographie des gens heureux ».
Je loue des chambres d'hôtel aux étages élevés. Je fixe les quelqu'un de ma fenêtre avant de les capturer. Je les habille de peut-être, c'est l'attraction de les sceller. Je photographie des gens heureux pour essayer de leur ressembler. J'admire cet éclat dans leurs yeux, l'étudie pour le développer. Je loue des chambres d'hôtel en étages élevés. J'aime les minois facétieux, leurs sourires écorchés. Maladroits, paresseux, fragiles ou réprimés. Je photographie des gens heureux. Sur le papier, leurs rayons se voient. Je ne trouve rien de plus précieux que cette étincelle ornée de soie. Mais si j'entreaperçois au travers de ma tête embuée l'ombre d'un orage au loin dans une maisonnée, je tire les rideaux et grimpe sur le toit. Regardez l'homme de toi et moi. Je photographie des gens heureux pour essayer de leur ressembler. J'admire cet éclat dans leurs yeux, l'étudie pour me le développer.
Il reste 28 secondes.
Nous venons d'écouter la musique « Je photographie des gens heureux » d'Olivia Ruiz et nous sommes toujours sur Radio Libertaire 89.4 FM, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Dans l'émission, on a déjà traité le sujet de l'association Adoc. Nous allons maintenant parler de la mise en abîme du regard des cinéastes et du regard des photographes. Jérôme, dans ton film, on en a déjà un peu parlé, tu choisis de montrer les photos de Corentin seulement à la fin. Et finalement, c'est à travers ton regard qu'on suit tout ce qui se passe, tous ces conflits. Et on se rend compte qu'il y a une ressemblance entre, entre le personnage de photographe que tu choisis de filmer et ta propre existence en tant que cinéaste, comme un peu une mise en abîme de ce regard. Est-ce que c'était aussi un choix ?
Ouais, bien entendu, il y a quelque chose de l'ordre, encore une fois, du miroir entre Corentin et moi. Et dans ton film, Mariana, tu parles d'un moment où il dit, je peux pas rester toujours par terre, parce qu'il y a un moment, il faut quand même que je me lève si je veux prendre des photos un peu différentes. Et ben moi, c'était complètement mon cas. Et d'ailleurs, il y a un moment en Libye où je dis à Corentin, moi, je suis en tout automatique, et lui dit, non, c'est bon, moi, je reste en manuel. Et en même temps, on sent qu'il y a un rapport au corps mort, qui n'est pas forcément le même de Corentin à moi. C'est-à-dire qu'il y a par exemple ce cas d'un corps déchiqueté en Libye qui est vraiment dans l'impossibilité d'être photographié par Corentin, alors que moi je suis dans une autre position vis-à-vis de cette horreur, on va dire. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Corentin, il dit non, je peux pas, et puis il se retourne quand même et puis il fait une photo qui d'ailleurs sera publiée sur dans Paris Match. Et donc oui, évidemment, il y a cette idée de trajectoires parallèles qui sont pas exactement les mêmes, où même moi je m'étonne, et quand il dit au moment de la Libye, il dit non mais moi je veux rentrer, et je dis mais t'es sûr, et je pense qu'on sent aussi mon impatience et mon désir de rester. Et d'ailleurs, il y a cette partie finalement que j'ai pas gardée au montage, où finalement on décide avec d'autres collègues à lui de partir en Syrie, et il me dit mais gars, t'es rentré dans ton film.
Et est-ce que ce choix-là, vraiment, de filmer un photographe qui, outre le fait que ce soit ton ami, est-ce que tu sens que c'était vraiment une manière pour toi de questionner ton propre regard, ce dont tu parlais tout à l'heure, de où est-ce que tu te places pour faire des photos, pour filmer, là, en l'occurrence? Est-ce que tu sens que ça a été vraiment... que ce personnage-là t'a vraiment aidé par rapport à ça?
Ouais, bien entendu, parce que... Moi, j'étais hyper surpris. Alors moi, donc dans l'écriture documentaire, il se trouve que j'ai pas fait d'école, donc on me demande d'écrire mes intentions, de faire une note d'intention et de réalisation. Et au début, c'était un exercice extrêmement difficile pour moi. Et toute la logique de l'écriture documentaire, c'est qu'elle soit construite, qu'elle soit réfléchie, le plus possible d'ailleurs a anteriori, a priori. Et il est évident que j'étais complètement renversé. Par une pratique en plus de newser, c'est-à-dire de photographes qui arrivent, qui prennent des photos, qui les vendent et basta, c'est fait, on rentre. Et d'ailleurs, Corentin le dit dans l'extrait qu'on vient d'entendre, il dit parfois je lis 2-3 trucs, un guide de tourisme sur le pays où je vais. Et forcément, moi, je voyais cette pratique de l'urgence avec à la fois une forme d'admiration et aussi une forme de doute aussi, de dire mais comment tu peux pratiquer un regard sur un pays que tu ne connais pas en fait. Donc forcément, moi, mon regard qui se construit, lui, sur les 4 ans qu'ont duré le tournage, est vraiment d'une autre nature. Et il se développe beaucoup plus avec le temps, qui est le temps du tournage et le temps du montage, le temps éprouvé par les spectateurs et spectatrices.
Et toi, Mariana, c'est évident que cette question de où tu places ton regard de cinéaste, elle te travaille depuis les débuts. Et c'est quelque chose qui n'est pas, que tu ne découvres pas dans ce film, mais que tu es allé encore une fois creuser. Et il y a cette vraie question de qu'est-ce que je montre au spectateur, qu'est-ce que moi je vois, et en quoi je peux tout montrer, ou comment je choisis ce que je montre, avec vraiment cette mise en abîme, encore une fois, de... un regard qui, sur un regard qui lui-même est donné à voir à des spectateurs. Entre autres, cette scène dont tu nous as déjà un tout petit peu parlé, avec Depardon qui est en train de photographier cet enfant qui meurt de faim au Biafra.
Depardon qui filme.
Qui filme, voilà, mais qui est à la place où était Gilles Caron quelques instants avant, avec son appareil photo.
Oui, 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 ce film, c'est vrai que j'aurais pu mettre histoire de regard au pluriel, hein, plutôt qu'histoire d'un regard. Parce que, effectivement, c'est mon regard sur Gilles Caron, qui lui-même regarde des gens qui eux-mêmes le regardent. Parce que le regard est très important. Enfin, il photographie ce qui fait vraiment la particularité de ses photos, c'est la manière dont il va chercher des gens, quoi. Enfin, il photographie vraiment quelqu'un.
Il ne vole pas des images, il est dans la relation.
Oui, il voilà, le regard. Voilà. Et finalement, il y a assez peu de photos spectaculaires dans la situation. C'est souvent plutôt des postures, des corps, des regards, des visages. Et c'est assez étonnant. Il y a quelque chose d'assez documentaire, en fait, dans son regard. C'est ce que j'ai découvert au fur et à mesure. Parce que c'est vrai que c'était un peu bizarre au début de m'intéresser à un photoreporter. Parce que, comme tu faisais remarquer, Jérôme, on n'est pas du tout dans la même... dans la même temporalité. Dans le documentaire, on prend le temps, on a repéré avant, ou si on n'a pas repéré, toi tu décides de faire un film sur ton ami du jour au lendemain, mais c'est que ton ami depuis longtemps, donc quand même il y a un repérage qui est là finalement quelque part depuis longtemps, vous avez déjà discuté, enfin etc. Il y a tout un... Donc la démarche documentaire, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément écrire beaucoup avant. Hein. Il y a des films qu'il faut qu'on écrive, d'autres pas. Enfin, c'est pas forcément nécessaire. Mais voilà, on prend le temps. On prend le temps, si ce n'est avant, c'est pendant le tournage qui peut durer, comme le tien, 4 ans, 1 an. Enfin, ça, voilà. Alors que le reporter, effectivement, il va très très vite. Et pourtant, dans le travail de Gilles Caron, et c'est ça qui m'a intéressé, c'était de sentir que malgré tout, même s'il restait 3 jours, même s'il restait. Pas très longtemps sur ces terrains, il y avait toujours deux parties dans son travail. Il y avait d'abord la partie vraiment reportage pour faire la première page du journal, pour faire la première page de Paris Match, avec la conscience du scoop, de la photo qui allait être voilà, la première photo qui aura été faite sur le mur d'alimentation ou à tel endroit, etc., avec telle personnalité, etc. Mais en fait, après, à chaque fois, et c'est pour ça quand tu parlais de Jérusalem, la suite qu'il y a après le mur d'alimentation, à chaque fois, il reste quand même un petit peu plus que nécessaire, un peu plus que le scoop, parce que je pense qu'au fond, ce qui l'attire, et le film raconte ça, hein, c'est que ce qu'il aimerait faire, c'est plus un travail documentaire. C'est-à-dire passer du temps avec les gens, arriver à aller au-delà de l'actualité. Et d'ailleurs, toutes ces photos... porte quelque chose d'universel et quand il photographie que ce soit les enfants affamés ou les soldats ou il y a quelque chose qui dépasse le moment dans lequel ces gens sont pris, enfin le moment de guerre dans lequel ils sont pris. Donc c'est un peu c'est là qu'il y a une j'ai reconnu dans son travail quelque chose du documentariste, enfin de l'intérêt de la volonté de donner pour l'éternité, enfin de photographier pour l'éternité quelque chose qui est de l'ordre de l'instant.
Et d'ailleurs, j'avais une question, c'est tu as fait le choix de très peu interviewer, donc, enfin, ou avoir d'entretiens avec des personnes qui l'ont effectivement côtoyé, notamment sur le terrain. Tu as interrogé donc ce photographe qui l'a côtoyé donc au Tchad. Qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé à ce photographe et à cet événement, et pourquoi peu à d'autres professionnels qui ont pu le côtoyer sur le terrain.
Depardon, qui est quand même celui avec qui il a le plus travaillé, avec lequel il avait une amitié même très forte. Hein. Je lui ai demandé s'il voulait participer au film. Il n'avait pas envie. Ceci dit, ça me semblait important de lui demander parce que c'était justement éthiquement. Je pense que c'est comme c'était son plus grand ami. Je ne pouvais pas faire le film sans lui demander s'il voulait y participer, mais le fait qu'il y participe pas m'a plutôt soulagé parce que je pense qu'il aurait un peu fait écran, quoi. C'est-à-dire qu'on aurait entendu vu que Depardon. Or, quand même, l'objet de ce film, c'était quand même qu'on imagine Gilles Caron, de faire revenir Gilles Caron, qu'il soit présent, même si il n'est jamais là, qu'il soit présent. Et je pense que Depardon aurait un peu empêché ça. Et pour ce qui est des autres, alors d'abord, il n'y en a pas tant que ça. Il y avait Maculine, que j'aurais pu peut-être, j'ai pensé peut-être le rencontrer, mais c'était compliqué. Il vit en Angleterre, il a arrêté la photo. Et puis là, c'est pareil, je pense qu'il a une personnalité tellement forte que je pense que ça aurait fait écran aussi. Et j'avais pas tellement envie d'interviewer des gens, finalement, qui l'ont. Alors, Pledge, lui, c'est différent, c'est parce qu'il assiste. si je l'ai interviewé, c'est plus pour le moment où Gilles Caron lui dit qu'il va arrêter. Et pour qu'il nous raconte quelque chose qui est presque... Enfin, cette histoire, finalement, c'est presque plus une histoire de photo. C'est vraiment un moment très, très particulier qu'ils vivent ensemble au Tchad. Et donc, c'est plus par rapport à ça que j'ai interviewé, plus que par rapport au travail de photographe.
Et effectivement, je trouve qu'il y a énormément de choses qui se jouent dans ce moment si particulier du Tchad, qui est que ce qui arrive, en tout cas de ce que j'ai vu relativement peu, c'est que les journalistes changent de camp. Généralement, on choisit avant. C'est-à-dire qu'il est difficile de traverser une zone de front, et donc les journalistes décident d'être du côté de telle armée ou de... Et donc là, il y a traversée de ce no man's land qui est la ligne de front. Et après, ce moment aussi complètement dingue, c'est-à-dire qu'il devient un émissaire donc de l'armée, et donc avec son drapeau blanc, demande aux rebelles de se rendre, en fait. Ou en tout cas, transmet la demande. Et effectivement... Et c'est ce qui amène dans ton film cette notion que, en fait, il n'existe pas d'observateur neutre, il n'existe pas d'observateur qui n'a pas d'action sur le réel qu'il est en train de capter, en fait. Et je trouve qu'effectivement, le fait qu'il y ait un témoin de cette scène-là lui donne encore plus, je trouve, une matérialité différente au sein de ce film.
Oui, là, j'avais vraiment besoin que quelqu'un qui l'ait vécu le transmette, le raconte. Mmh.
Et tous les mots que tu as, disant, il fait définitivement partie de la scène. Il est à la fois témoin et complice, etc. C'est des mots qu'en fait, moi, je trouvais qu'on pouvait, toi qui fais un film sur lui, ça devient un peu des mots qu'on peut t'appliquer à toi. Est-ce que tu le ressentais comme ça?
Oui, c'est des questions évidemment que je me pose. Enfin, la question de savoir, par exemple, pour reprendre l'exemple de Pardon qui filme cet enfant. Bon, moi, j'ai jamais été dans des face à une réalité aussi dure, hein, bien bien loin de là. Donc voilà, j'ai pas ce courage. Je pense que j'aurais jamais le courage d'aller filmer, comme Jérôme, la guerre. Je pense que ça, c'est voilà. Mais ceci dit, la question de savoir où on s'arrête dans ce qu'on filme, il y a quand même, bon, j'ai assisté à des scènes, des choses qui sont extrêmement violentes, et c'est à quel moment on s'arrête, pourquoi est-ce qu'on va filmer la violence à un moment donné, pourquoi on va même la montrer dans un film, à quel moment on a le droit ou pas, enfin qu'est-ce que... évidemment, c'est des questions, à quel moment on intervient dans le réel, à quel moment on peut s'impliquer, est-ce que il faut aider les gens ou pas, enfin c'est des questions qu'on se pose tout le temps dans chacun des films.
Avec donc cet exemple quand même très fort qui est cet enfant qui se retrouve convoqué par la police du fait notamment d'être donc en une de Paris Match.
Oui, en Irlande, une photo qu'il avait prise en Irlande des révoltes des Nord-Irlandais donc face aux Anglais. On arrive doucement à la fin de notre émission, donc on va vous demander où on peut voir vos films. Donc Histoire d'un regard, Mariana Otero.
Histoire d'un regard, comme tous mes films en fait, on peut le voir sur entre autres la plateforme Universiné. Après, dans d'autres, sur Orange, Canal+, VOD, des choses comme ça, il existe aussi en DVD et comme plusieurs de mes films aussi.
Moi, je l'ai trouvé notamment dans ma médiathèque, donc c'est aussi une bonne adresse. Et toi, Jérôme ?
Eh ben, la plupart sont en lien sur mon site, jérômecw.com.
Voilà. D'accord, très bien. Donc, merci beaucoup. Alors, on va faire c'est le moment un petit peu de l'agenda avec Doriane qui va nous parler de ce qui se passe en ce moment dans le documentaire.
Alors, le jeudi 8 décembre, donc ce jeudi, se déroulera la 6e édition des Pitchs d'Adoc au centre Paris Anime Louis Lumière dans le 20e. Le matin, c'est 6 auteurs et autrices qui pitcheront leur projet de documentaire et l'après-midi est consacré à des rendez-vous individuels entre ces autrices et des producteurs-productrices. Mais il y a également 2 tables rondes. C'est gratuit, accessible à tous et toutes sur réservation. Et toutes les informations sont sur le site d'Adoc. Le film Les Blanches Terres d'Amélie Cabossel sera projeté dans le cadre des Samedis d'Adoc le 10 décembre à 11h au Luminor Hôtel de Ville, suivi d'un débat avec la réalisatrice. J'en profite pour dire que le Luminor est toujours menacé de fermeture et nous soutenons l'équipe du cinéma qui lutte pour que le Luminor continue d'exister. Donc si vous voulez également les soutenir, vous pouvez signer la pétition qui se trouve sur leur site. Des cailloux dans la soupe est un film réalisé par Catherine Réchard et sera projeté le 5 décembre à 19h à la Maison des Associations de Melun. Et également le 5 décembre, mais à 20h, se déroule au Club de l'Étoile à Paris un rendez-vous proposé par les cinéastes de la SRF, donc la Société des réalisateurs et réalisatrices de films, autour de la question « Comment les cinéastes se réapproprient une matière déjà existante ?» Ce que tu as fait, Mariana. Isabelle Ingold, membre d'ADOC, mais également Henri-François Humbert, Viviane Perret-Multer et Éléonore Weber seront là pour discuter de cette question. Le 8 décembre à 17h30 à la Cinémathèque du documentaire, vous pourrez voir le film Ailleurs partout d'Isabelle Ingold
et Viviane Perret-Multer,
suivi d'un débat avec les réalisatrices. Un lieu pour respirer est une association qui se trouve au Lila et organise régulièrement des soirées de projection de films documentaires. La prochaine soirée est le 11 décembre à partir de 19h. Vous pourrez y voir Sans carte ni GPS de Cyprien Bizot et Articulation de Tristan Delasselle, deux courts-métrages documentaires. Les festivals, la prochaine édition du FIPADOC se déroulera du 20 au 28 janvier 2023 à Biarritz. Et le Festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société FIGRA ouvre les inscriptions des projets de films documentaires ou reportages à partir du 15 novembre jusqu'au 25 février 2023.
Merci Doriane. Alors comme on a encore quelques minutes, je pense qu'on peut profiter pour vous poser la question de sur quel film vous travaillez en ce moment, si vous travaillez sur des prochains films. Jérôme, est-ce que tu peux nous dire?
Là j'ai sorti, il y a eu la première mondiale d'un nouveau moyen métrage documentaire, on va y arriver, sur une communauté qui existe en Corrèze, qui invente une nouvelle forme de ritualité, qui se retrouve chaque année l'été. Le film s'appelle Un Troisième Testament, et là je suis encore en fabrication d'un documentaire que je tourne en Haïti depuis 6 ans maintenant, sur un duo mère-fils, donc le fils étant adopté. Voilà.
Donc toi aussi tu es parti, tu as été séduit par Haïti sur les traces de Corentin du coup ?
Exactement, c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai suivi Corentin là-bas pour un baptême du feu, et j'ai eu assez vite le désir de retourner là-bas. Et il se trouve que j'ai rencontré cette histoire que j'ai eu envie de raconter.
D'accord.
Moi toujours très lente, hein, la tortue. Maintenant, c'est bien de se référer à la tortue, hein. Pas pour ceux qui comprendront. Bref, j'avais un projet que j'avais pas mal démarré, mais dont une partie se passait en Ukraine. Donc ça a été très très mauvaise pioche. Donc là, je suis en écriture de deux autres projets dont l'un devrait se tourner quand même sans même avoir écrit. Il y a un moment donné j'en ai marre d'attendre, donc j'y vais, voilà. Et un autre dont l'écriture est un peu sur le long terme, mais voilà.
D'accord, tu veux pas nous dire un tout petit peu sur quoi il porte? Pas forcé, hein.
C'est dur au moment. Je trouve que c'est dur au moment où un désir de film est si frais.
Ouais.
C'est dur d'en parler. En tout cas, moi, je sais qu'on me demande souvent quand je suis en écriture. Alors, tu travailles sur quoi? Et c'est tellement fragile, tellement frais que j'ai besoin que le désir et que la pensée commence à se constituer avant de l'exposer à des regards extérieurs.
Surtout que souvent, les projets évoluent au fur et à mesure qu'ils sont construits, quoi.
Oui, puis il suffit que l'autre souffle, soupire, je sais pas, enfin, tout d'un coup, ça, c'est comme une petite flamme qui peut la préserver.
Mais j'ai quand même une question sur ta façon de faire, justement entre le cinéma direct, la mise en scène, la construction, où j'ai l'impression que tu as trouvé quelque chose qui est assez personnel, qui est assez unique, de mêler les deux. Quand tu nous racontais la scène avec l'historien dont tu ne sais pas ce qui va se passer, bon, je crois qu'on n'a plus le temps. Il n'est pas là.
Voilà. Il est là.
Bon.
Et eh bien, ce sera le thème d'une prochaine émission. Désolée pour cette interruption, Anne, mais effectivement, on arrive à la fin de notre émission. Merci beaucoup à toutes les personnes qui l'ont animé. Merci à vous qui l'avez écouté. Et nous passons la parole à notre cher successeur qui va faire...
Il n'est pas là.
Qui n'est pas là?
Bah alors, on avait une minute.
Eh bien, reprends ta question, Anne. Vas-y. Vas-y, reprends ta question, profitons-en. Voilà.
Est-ce que tu creuses, ça sera peut-être pas dans le podcast de Radio Libertaire, mais ça sera dans le podcast que vous trouverez sur le site d'Adoc, puisqu'on gardera, même si ça débute sur l'émission suivante. Du coup, voilà, cette façon, cette forme, est-ce que c'est quelque chose que tu creuses consciemment? De laisser des temps de...
Non, ce que j'essaye...
D'improvisation, de...
Ouais, non, ce que je cherche, c'est surtout à pas reproduire quelque chose que j'ai déjà fait, ce qui, au fur et à mesure, me ralentit encore plus. Voilà, donc c'est vrai que le cinéma direct, je l'ai beaucoup pratiqué, avec toujours dans des configurations un peu différentes, mais là, j'avais envie d'aller vraiment vers autre chose, dans l'histoire d'un regard, voilà, les prochains, je vais encore aller plus vers quelque chose de peut-être encore plus construit et de plus ouais, c'est avec des scènes aussi de ouais, mais j'essaye d'inventer quelque chose qui fasse que ça me que ce soit de l'ordre de l'expérimentation d'une certaine manière, quoi, formel aussi, quoi.
Ben voilà.
D'accord, merci beaucoup. Ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup donc à tous les auditeurs et les auditrices. Merci Jérôme, merci Mariana, merci Anne, merci Doriane et merci à nos amis qui ont fait la technique. Bonne journée, bon dimanche. Au mois prochain pour la prochaine émission.